Hello, hello. Bon, un petit épisode dédié aux passionnés de son. Aujourd'hui, comme je l'avais déjà annoncé dans un autre épisode auparavant, je vais vous présenter le matériel qui compose mon home studio. Comme je l'ai déjà dit et je le répète à chaque fois, c'est pas la quantité ni le prix nécessairement qui compte, c'est véritablement ce qu'on fait du matériel. Et surtout, voilà, le besoin qu'on peut en avoir et la manière de s'en servir. On peut avoir du matériel très cher et être une brêle en technique sonore. On peut avoir du matériel un peu moins cher et être plutôt doué. Moi, c'est Manu et je vous souhaite la bienvenue dans Audio de bord.
Audio de bord. Audio de bord. Écoutez, découvrez, voyagez. Produit par VPK Prod. Produit par VPK Prod.
Pour commencer, eh bien, on va parler microphone. Et alors, des microphones, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que je possède des micros qui sont passe-partout, qui sont utiles. Donc, le Rode NT1A, c'est celui-ci, avec une couleur assez simple. Moi, je le trouve pas très coloré. Bon, il faut le post-traiter quand même un petit peu, selon la voix qui va être injectée dedans. Mais c'est un micro qui est relativement neutre. Un microphone, donc, à large membrane. Un micro statique qui est essentiellement utilisé chez moi pour faire de la captation de voix, de la voix chantée, de la voix parlée. Volontairement, je vais appliquer aucun effet, aucun post-traitement sur les captations des micros que je vais vous proposer pour que justement vous puissiez en entendre la couleur naturelle. Voilà. Je vais aller récupérer ici dans mon coffre deux autres microphones. Microphones légendaires aussi, hein, qui sont aussi très connus dans le domaine de l'audio. Il s'agit du Shure SM58. Donc un micro très directionnel. Donc par exemple, là, je le mets perpendiculaire à ma voix. Voilà, tout de suite, eh bien, on m'entend beaucoup moins. Et quand je le rapproche comme ça, en le dirigeant vers ma bouche, de manière très directionnelle, eh bien, on m'entend plutôt parfaitement. Donc c'est un micro qui est un peu coloré. Je trouve que les Shure sont de manière générale assez colorés, en tout cas quand on parle de la gamme entrée de gamme, hein, parce que là sur le Shure SM57 et SM58 on est sur de l'entrée de gamme. Micro qu'on va utiliser sur scène pour la simple et bonne raison qu'il est dynamique et directionnel, donc ça permet aussi de capter simplement la voix de la personne et pas l'environnement. Voilà. On peut l'utiliser aussi pour faire de la captation d'instruments, mais moi je trouve qu'il n'est pas extrêmement performant pour ça. Je vais utiliser pour ce faire le SM57. Nous sommes ici donc sur le SM57 de chez Shure. Pareil, micro très directionnel, très dynamique. Micro que j'ai utilisé très récemment pour faire de la captation de guitare. On le fout devant une guitare, et bien c'est top. Franchement, c'est un micro à mon sens qui est vraiment bon pour ça. Une fois de plus, hein, les micros, on peut les utiliser pour tout un tas de choses. Même ce micro-là, on peut les utiliser pour de la voix, si ça vous chante. Moi, ici, l'idée, c'est que je vous partage mon expérience, qui est uniquement la mienne, qui n'est pas nécessairement celle de tout le monde, mais voilà. Ensuite, eh bien, on a d'autres types de micros. Alors, on a, moi, personnellement, j'utilise d'autres types de micros, notamment pour le podcast audio de bord. Des micros qui sont parfois un peu plus perfectionnés que ceux dont je viens de vous faire la démonstration, et d'autres beaucoup moins. Exemple, le micro que j'utilise très très souvent, ce sont les micros de chez DPA, les 4560, qui est donc un pack de tours de tête qui vient se positionner sur vos oreilles. Donc les petites capsules de micro vont se suspendre au niveau de vos oreilles et permettre... alors, je ne parlerai jamais de binaural, puisque j'ai un petit peu de mal avec ce concept-là, mais l'idée étant de retranscrire au plus près ce que moi j'entends. Petit extrait que j'ai capté il y a quelques jours en amont d'un futur épisode de podcast. Voilà, donc vous avez pu entendre quand même que c'est très très qualitatif. Les TPA 4560, là on est sur des micros quand même haut de gamme, je dirais milieu de gamme, puisqu'on peut trouver des micros à 4000, 5000, 6000, 8000 euros. Pour moi en tout cas, j'estime que DPA, bon déjà c'est une marque de prestige aussi, hein, on va pas se mentir. Ces micros-là, les DPA 4560, moi je les ai payés 1100 euros. Donc là on est dans la tranche haute. Dans la tranche basse, eh bien on a des choses un peu moins qualitatives, mais malgré tout qui permettent parfois de sauver un petit peu des reportages, ou en tout cas qui sont des micros d'appoint. J'en ai déjà utilisé dans audio de bord, j'ai déjà utilisé notamment le micro de mon iPhone SE 2020. Depuis l'iPhone SE 2020, on a des captations stéréo, grâce aux différents micros qui sont positionnés de part et d'autre de l'iPhone. On arrive à avoir des captations sonores qui ne sont pas mauvaises. Alors là, l'inconvénient, je dirais, de cette captation-là, c'est que dans tous les cas, dès que vous enregistrez avec un iPhone, il y a du post-traitement, et parfois le post-traitement n'est pas foufou, puisque les micros sont pas positionnés de manière très optimisée, et du coup, le logiciel interne de l'iPhone est obligé de recalculer tout ça, et il propose des post-traitements qui sont pas foufou. Bon, on a une compression, on a de l'égalisation, on a des limiteurs qui permettent aux personnes lambda qui veulent juste faire de la captation sans se prendre la tête, eh bien de réaliser quand même des productions plutôt agréables à écouter. Donc ils sont pas, voilà, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le post-traitement, il faut juste faire un peu de montage et puis terminer.
Alors là, je suis au niveau de ma barrière, car la voie ferrée est juste en face de moi et j'ai mon téléphone dans la main que je vais lever au-dessus de ma tête. Le train est censé passer dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour des podcasts, je vous le dis. Ah oui, j'ai oublié le détail. Il est à peu près 6h15 du matin.
Et puis le petit dernier, alors je ne l'ai jamais utilisé en production, mais j'ai trouvé ça vraiment très très drôle à l'usage, la petite captation que j'ai faite. Je vous la pose là et on en parle juste après.
Bon, vous aurez compris, je suis à la piscine de ma résidence. Faut y aller.
Donc vous aurez reconnu un plongeon dans une piscine, et cela j'ai pu le réaliser grâce à mon Apple Watch. Alors bon, on est d'accord, hein, c'est pas hyper quali en termes de son. Je vous le mets là parce qu'en fait j'ai trouvé la captation vraiment cool, le plouf et puis le bruit dans l'eau. Alors j'étais obligé de couper assez court puisque l'après, en fait, quand je remonte à la surface après être plongé dans ma piscine résidentielle, n'est-ce pas, les micros sont gênés par l'eau qui reste en fait au niveau des membranes dans la montre et du coup la qualité du son est vraiment dégradée. Je vous en ai laissé un tout petit bout pour que vous vous rendiez compte un petit peu, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas dingue, hein, comme captation. Hormis ça, si jamais on souhaite juste faire une captation, je sais pas moi, d'une réunion, ou enregistrer un numéro de téléphone quand on nous le file dans la rue, ou un truc rapide, eh ben franchement, ça fait la blague. Hop, vous sortez le logiciel d'enregistrement que vous avez choisi sur votre Apple Watch, et puis ça enregistre. Franchement, le son n'est pas dégueu en soi pour du dictaphone. Pour terminer sur les micros, eh bien, il y a ceux qui enregistrent actuellement. Ce sont, une fois de plus, des Rode, un couple de Rode LP5 qui sont juste devant moi, qui sont positionnés sur une perche, deux petits micros canons omnidirectionnels qui sont positionnés du coup pour faire de la captation d'ambiance. En tout cas, moi, je les utilise pour ça. Je trouve que c'est quand même assez cool. Alors, il faut faire un peu de post-traitement quand même, on va pas se mentir. Là, j'ai laissé de brut pour que vous puissiez vous rendre compte, mais généralement, dans mes épisodes de podcast, je post-traite un peu quand même parce qu'il manque un peu de bas et un peu de médium. Voilà. Bon, après, le son, c'est personnel, hein, on le sait. Chacun a son son, chacun a son oreille aussi. Donc, on ressent les choses un petit peu à sa manière. Moi, personnellement, c'est vrai que je trouve que ce sont des micros d'appoint qui sont cool pour faire de la captation d'ambiance comme ça. Ça va bien. Concernant mon système de monitoring, je dispose donc en face de moi d'une paire de HS7 de chez Yamaha qui se trouve, hop, ici et ici, très neutre. Moi, j'aime beaucoup cette neutralité. Et ces enceintes-là donc, sont associées à un caisson qui se trouve juste ici, à mes pieds, de la marque Prodip. Donc c'est le... J'ai oublié. Prodis S, troisième génération. Voilà, donc une petite config monitoring qui est assez cool. Très neutre, comme je le disais. Efficace, franchement efficace. Alors par contre, il faut régler hein, le caisson, parce que sinon il vous délivre pas mal de basses. J'aurais pu acheter le caisson associé à Yamaha pour les HS7, mais pour la petite structure que j'ai ici, c'était vraiment pas nécessaire. Et puis il y a mon chouchou, le petit Sony MDR7506, mon casque de monitoring fermé. Un truc de fou. Ce casque, ça fait... Alors, c'est pas celui-là, hein, mais ça fait des années, en tout cas, que je pratique ce modèle. C'est une dinguerie. J'ai essayé, il y a quelques années, Beyer Dynamic. Et Beyer Dynamic, c'est pas mal, hein, en termes d'écoute. On s'amuse bien, il y a des bonnes basses, il y a pas mal d'aigus. Enfin, voilà, on est content. C'est ce que j'ai utilisé pendant ma période de radio, avec des VRGV. Et en fait, je l'ai utilisé un petit peu en monitoring et en session mix, et en fait c'est pas cool parce que il est trop coloré, et du coup on a tendance à sous-mixer certaines fréquences, et on se retrouve avec des mix qui sont dégueux en vérité. Et ce petit MDR7506 de chez Sony, il est vraiment qualitatif. En termes de prix, on est sur 99 euros, je crois, un truc de genre. Et en termes de rendu sonore, franchement c'est royal, parce que c'est super neutre, un peu à l'image de mes HS7. Alors moi, je mixe beaucoup au casque, et la finalisation, je la fais avec les enceintes. Du coup, ce petit casque, il est vraiment très représentatif de ce que j'entends. En résumé, j'écoute ce que je mixe, et je mixe ce que j'écoute, et ça, c'est top. Voilà pour la partie écoute et monitoring. Pour le reste, alors, j'ai devant moi un clavier maître de chez Native Instruments. S88 MK2, une machine qui est vraiment pas mal, avec un toucher lourd, lesté. L'avantage de cette machine, donc 88 notes, l'avantage de cette machine, c'est que elle est vocalisée par un système de text-to-speech. Alors, qu'est-ce que c'est que le text-to-speech ? C'est la fonction d'envoyer du texte à l'ordinateur en temps réel, et celui-ci va rendre vocal ce texte par le biais d'une synthèse vocale, en l'occurrence sur macOS, la voix de VoiceOver. Et ça nous permet, à nous personnes déficientes visuelles, d'accéder à, je dirais peut-être, 70-90% des VST, des sons, qu'on peut trouver sur le marché. Alors pourquoi 70-80%? Tout simplement parce que pour que ça fonctionne, il faut que les instruments virtuels soient au format NKS. Donc c'est le format de chez Native Instruments qui permet d'être intégré et d'être piloté surtout par la machine, par tous les claviers natifs. Ça c'est quand même vachement bien. Devant moi, j'ai ici une interface de contrôle de chez Presonus, donc la Faderport 8. C'est une machine très intéressante pour nous, personnes déficientes visuelles, pour la simple et bonne raison qu'elle est motorisée. Ça veut dire que, par exemple, quand je lance un projet sur lequel j'ai travaillé et que j'ai fait des réglages de pistes, eh bien, celle-ci va charger ma configuration et me mettre tous mes faders à l'endroit où je les ai laissés. Par exemple, comme un projet sur lequel je suis actuellement, un cover de Maître Gims avec une trentaine de pistes. Quand je l'ouvre, hop, c'est parti. Voilà, donc là on a entendu les 8 curseurs qui se sont levés pour la simple et bonne raison parce que forcément j'ai plus de 8 pistes. Donc les 8 se sont levés et si je vais sur ma page suivante, voilà, donc là je passe de 8 en 8 et on entend les curseurs qui se positionnent en fonction des 8 8 8, et ça c'est quand même vachement pratique quand on voit pas, parce que ça nous permet vraiment de savoir comment on a réglé nos curseurs et de partir sur un projet déjà configuré en fait, parce que avant j'avais une interface de contrôle qui n'était pas motorisée et c'était un peu problématique justement pour cela. Donc la Presonus. Ensuite j'ai une interface audio numérique qui est la IK Multimédia qui me permet justement de relier mes micros Rode LP5 qui sont envoyés vers le Mac, on va en parler après, et qui me permettent d'avoir une deuxième carte son secondaire du coup pour faire de la captation tout court en fait. Si je suis en train de travailler sur Logic Pro, donc le logiciel que j'utilise pour faire de la musique, eh bien je peux capter quand même l'ambiance avec un autre logiciel et continuer à travailler sur mon projet qui utilise lui pour le coup ma grosse carte son qui est en dessous. On va y revenir. Donc cette IK Multimédia possède deux entrées. Ce qui me permet de faire une paire stéréo. Donc c'est un truc à la base, c'est un truc portable. Elle est connectable en USB-C et en Lightning, ce qui est quand même vachement bien pour aller capter sur l'iPhone, par exemple. Et bien sûr, sur Android, puisqu'elle a une connectique USB-C. J'ai les adaptateurs pour faire du MIDI aussi. Ça me permet de brancher un clavier MIDI sur cette petite carte son. Et du coup, aller me balader et pouvoir faire de la musique. Ensuite, en dessous, la grosse carte son qui est une Scarlett 1820 de chez Focusrite. J'adore cette carte son, je trouve qu'elle est vraiment bien. 8 entrées en XLR combo jack. Ça me suffit pour mon studio. J'ai deux casques en sortie, j'ai une sortie monitoring, j'ai un bouton pour faire moins 10 dB quand je suis en train d'écouter sur le monitoring. J'ai un bouton aussi pour muter la totalité. Enfin, et en plus, ce qui est vachement bien, c'est que les boutons pour régler le gain sont, pardon, sont physiques. J'ai un accès quasi total à cette carte son, d'autant plus que Focusrite est en train de faire un travail monstrueux sur l'accessibilité de l'application qui permet de gérer la Focusrite. Donc moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu de la musique qui considèrent que cette machine n'est pas bien. Moi, je l'adore. Elle a des préamps qui sont top. Zéro souffle. Franchement, elle est de très bonne facture. C'est une machine qui est rackée au format 19.1U. Donc ça, on en reparlera peut-être un petit peu après. Pour connecter mes DPA, j'ai aussi investi dans un DAC donc, qui permet de connecter mes DPA avec les fiches propriétaires Microdot vers un iPhone ou un terminal Android. Revenons donc au Home Studio, le tout, donc la Scarlett, l'IK Multimédia et tutti quanti, tout ça c'est connecté à un Mac Mini 2022 avec une puce M2, 32 gigs de mémoire RAM unifiée, 4 Tera et bien sûr juste au-dessus un disque de sauvegarde de 4 Tera aussi. Qui me permet donc de stocker tous mes fichiers, tous mes projets en tout cas. Quand j'ai fini, je les stocke comme ça, je les sauvegarde et ils sont toujours là. Oui, j'ai un peu un pet maintenant avec la sauvegarde. CF, petit épisode précédent. Voilà pour le matériel que j'utilise ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, pas grand-chose. Moi, il me convient. C'est peut-être pas adapté à tous. Peut-être qu'il y a mieux, clairement il y a moins bien, mais c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Moi ça me convient, en tout cas pour mon studio, ça me va parfaitement. En termes de config portable, donc j'ai un petit MacBook Air de 2020 avec une puce M1 et une interface de contrôle Behringer, c'est la X-Touch Mini. Alors, c'est pareil, c'est une interface qui dont on a, enfin la marque en tout cas est très malmenée de manière très négative. Moi j'ai cette petite machine qui est très cool, franchement elle me permet de faire mes mix et même mes petites automations en itinérance. Ça pèse pas lourd. Alors, on est d'accord sur la fabrication, on est sur du plastique moulé un petit peu, on a l'impression que ça va se casser, mais en fait, ça marche très très bien. Les boutons sont de très bonne facture. Les boutons rotatifs sont de très bonne facture aussi. Ils sont crantés, en plus. C'est très bien intégré dans Logic Pro si on configure le truc comme il faut. Et en plus, il n'y a pas besoin d'alimentation externe. Donc, on est vraiment sur une config d'itinérance, c'est-à-dire que là demain, si je dois prendre le train et que je dois bosser dans le train, eh ben j'ai ce qu'il faut, je prends mon casque, je prends ma X-Touch Mini, je prends mon Mac et je suis totalement autonome, j'ai même pas besoin de me brancher, je peux travailler en toute autonomie. Donc voilà, attention aux rumeurs, attention aussi aux avis négatifs pour tout un tas de raisons. Peut-être qu'il y a effectivement des choses qui sont pas bien chez Behringer. Bon. Moi, je l'ai prise, elle était pas chère, en plus, et elle répond absolument à ce que je lui demande, donc moi, ça me convient, quoi. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel que j'utilise et retrouver les références, éventuellement, j'ai fait une petite page sur mon site internet, vous tapez www.dpkprod.eu/config-son, C-O-N-F-I-G-S-O-N, et paf, vous allez tomber sur la petite page que j'ai réalisée avec les liens directs même pour aller les acheter. Je la mettrai bien sûr en description de l'épisode. Et puis voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous parler un petit peu de mon meuble qui se trouve devant moi. Donc c'est un meuble de studio que j'ai fait moi-même, de mes propres mains, en réutilisant le bois d'un de mes anciens meubles télé. Donc c'est un meuble qui fait, je dirais, 1 mètre 10 de haut. Je dirais peut-être 80 cm de profondeur et 50 cm de large. Il y a sur sa partie supérieure donc mon écran, juste en dessous une petite étagère qui est sur rail qui me permet donc de tirer vers moi mon interface de contrôle mais surtout mon clavier. Et cette petite tablette vient en surplomb de mon S88, ce qui me confère vraiment une position de travail qui est très agréable. En dessous, on a donc 8U, donc 8U au format 19.1U. Le 19.1U, c'est un format de rack, d'accord ? C'est toute la difficulté du projet, c'était de faire un meuble dans lequel je pouvais racker mes éléments. Donc c'est très très précis, puisque de mémoire, ça doit faire à peu près 44 cm de largeur, avec quelques centièmes. Bon, heureusement, les trous me permettent d'être un peu moins précis, donc je dois être à 43, Je crois que c'est 43 et des brouettes. C'est 19 pouces, en vérité. Donc, entre 43 et 44 cm de largeur. Et une unité fait, je dirais... ça fait ça. Je dirais ça fait 4-5 cm de haut. Donc là, j'en ai 12. J'ai 12 unités. La première unité étant prise par mon étagère qui glisse, hein, sur lequel il y a mon clavier et mon interface Faderport. En dessous, j'ai du vide. En dessous, j'ai ma Scarlett 18-20 qui, elle, va prendre une unité. Ensuite, j'ai un espace vide parce que... Enfin, j'ai une unité de libre parce que je voulais laisser de l'espace pour mettre juste en dessous, sur une autre unité, une étagère qui, elle, est fixe, sur laquelle est posé le Mac Mini, ainsi que des petits hubs USB. En dessous, nous avons un tiroir qui, lui, est au format 2U. Donc, ça prend deux unités de haut. Et en dessous, j'ai une unité libre parce que je voulais laisser un petit peu d'air. Et tout en bas, j'ai mon rack, enfin ma prise, pardon, ma multiprise qui est rackée avec un interrupteur. Donc, je dois avoir, j'ai 8 prises dessus. Et sur la gauche ici, donc à gauche de mon meuble, j'ai une autre prise avec trois prises dessus sur lesquelles il y a mes enceintes et mon caisson, ce qui me permet de travailler soit avec, soit sans. Je ne vais pas l'allumer, parce que si je l'allume, on va voir un petit larcène, là, vu que j'enregistre, et j'ai pas envie que ça vous fasse du bruit dans les oreilles. Et encore sur la gauche ici, mais plus bas, on a donc l'onduleur, qui me permet, en cas de coupure électrique, de ne surtout pas perdre mes données sur lesquelles je suis en train de travailler. Très très important, l'onduleur. Je vous le conseille, si vous n'en avez pas, achetez ça. Ça coûte dans les 200-300 balles, mais au moins vous êtes sécure en cas de micro-coupure ou en cas de coupure électrique un peu plus longue. Vous avez le temps d'éteindre votre matériel et de sauvegarder tout et de tout éteindre proprement. Voilà, c'était important que je vous en parle. Ce meuble, donc, je l'ai fabriqué de mes propres petites mimines. Il y a des petites roulettes en dessous. J'ai mis 4 roulettes pour qu'ils puissent rouler, mais en fait... Comme vous entendez par terre, c'est de la moquette, donc en fait, il roule pas beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi encore sur mon meuble? Bah, c'est à peu près tout. Il est très lourd. J'ai dû le soulever il y a quelques temps pour le rehausser, justement, pour que la petite étagère là qui roule au-dessus de mon clavier puisse passer véritablement au-dessus, pour que je ne sois pas gêné. Et j'ai dû le rehausser de 10 cm à peu près pour que ce soit confortable pour moi. Voilà, donc un petit cocon, mes amis, un petit cocon dont je suis très fier. Comme je vous le disais, il y a mieux, il y a pire, mais ça, c'est mon endroit et j'en suis absolument ravi. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie d'avoir écouté tout ça. Une fois de plus, je vous rappelle que si vous souhaitez échanger avec moi sur le sujet, n'hésitez pas à utiliser tous les moyens qui sont mis à votre disposition pour cela. Si vous avez envie qu'on fasse une sorte de duplex ensemble, si vous avez envie d'échanger, qu'on fasse un épisode ensemble, 3, 4, 5, 6 même, en téléconférence, on pourra le faire. N'hésitez pas à prendre contact et m'en faire part. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut, c'était Manu pour Audio de Bord.
Et si on gardait le contact? WhatsApp 06 20 59 38 97. Instagram, Facebook, Twitter @dpkprod. Ou via le www.dpkprod.eu. dpkprod.eu.
Vous concevez, je réalise.
DPK Prod, du son à votre image.